فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons entamer le commentaire, l'exégèse de la deuxième sourate dans la liste des sourates du Mufassal que nous avons choisi pour cette série. Et la dernière fois, nous avions terminé l'exégèse et le commentaire de sourate An-Nas. Et aujourd'hui, nous commençons sourate Al-Falaq. Alors Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Donc comme vous le voyez, cette sourate est composée de 5 versets. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'Falaq, on expliquera ce qu'est l'Falaq, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux, quand il envie. Alors, s'agissant de la révélation de cette sourate, ce qu'on peut dire, c'est exactement ce qu'on a déjà dit avec sourate An-Nas. Pourquoi ? Parce que ces deux sourates ont été révélées en même temps. Et nous avions vu avec sourate An-Nas que les savants ont divergé quant au lieu et à la cause de la révélation. Pour certains, ces deux sourates ont été révélées à la Mecque. C'est que les Quraychites avaient demandé à quelqu'un parmi eux qui était réputé d'avoir un mauvais œil de jeter un sort sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'Allah azza wa jalla lui révéla ces deux sourates, entre autres pour demander protection auprès de lui contre le mal de cet homme-là ou de tout autre homme qui peut lui nuire. Donc là, ça serait pour cette raison que cette sourate serait révélée à la Mecque, et dans ce cas, c'est une sourate qui est mécoise. Le deuxième avis, et on l'a détaillé la dernière fois, enfin pour sourate An-Nas, cette sourate a été révélée avec sourate An-Nas à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie de l'Abid ibn al-Asam, cet homme-là qui avait profiter d'un jeune homme juif qui travaillait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un valet juif qui travaillait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de lui donner quelques cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a utilisé ces cheveux-là avec un peigne, et on a parlé de cela, il a mis des nœuds et il a jeté tout ça dans un puits, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché, elle a été négativement impactée par cette sorcellerie, au point qu'il croyait avoir fait certaines choses, telles qu'avoir eu un rapport avec sa femme, alors qu'il ne l'a pas eu. Et donc c'est suite à cet événement que cette sourate ainsi que sourate An-Nas ont été révélées. Mais bien entendu, rien n'empêche de penser que les deux sourates ont été révélées à la Mecque. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie à Médine, Allah azza wa jalla lui envoya l'ange Jibril pour lui demander de réciter ses sourates. Autrement dit, de lui dire, voilà, tu as déjà la guérison dans les sourates que je t'ai déjà révélées, relis-les. Donc l'une, c'est-à-dire le deuxième avis n'empêche pas le premier. Le fait qu'il y ait des hadiths qui témoignent que le prophète a été touché par la sorcellerie et que Jibril est venu lui parler de ces sourates-là, n'empêche pas que ce n'est pas une deuxième révélation, mais c'est seulement un rappel de la première révélation de sourate An-Nas. Comme quoi cette sourate peut te servir aussi afin que tu puisses te détacher de l'effet de la sorcellerie. Donc on peut, en regroupant ces deux avis, dire que la sourate a été révélée à la Mecque et que Jibril alayhi salam a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il pouvait aussi l'utiliser pour se protéger contre le mal de la sorcellerie. S'agissant maintenant de l'intitulé de cette sourate, la majorité des savants l'intitulent Sourate Al-Falaq, en référence au dernier mot du premier verset. Qul a'udhu bi Rabbi Al-Falaq. Donc il a été intitulé par ce dernier mot qui, comme on va le voir, a beaucoup de portée. C'est un mot qui est polysémique, qui a beaucoup, plusieurs explications et qui concorde avec l'objet justement de cette sourate. Le deuxième intitulé, c'est Sourate Qul a'udhu bi Rabbi Al-Falaq. Quelque part, tout le premier verset est devenu le titre de cette sourate. Sourate Qul a'udhu bi Rabbi Al-Falaq. Pourquoi la surnommer ainsi? C'est parce qu'il y a, parmi ceux qui ont adopté le premier, ce deuxième avis, il y a quelques savants qu'on va citer tout à l'heure, mais en tout cas, ces savants se réfèrent à un hadith qui a été rapporté par Nasa'i et d'autres comme l'imam Ahmed sur Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qui dit: j'ai suivi le prophète un jour j'ai suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur sa monture. J'ai alors posé ma main sur son pied et je lui dis: Ya Rasulallah, aqri'ni surata Hud wa surata Yusuf. Lis-moi surat Hud ainsi que surat Yusuf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondit: tu ne liras pas plus méritant auprès de Dieu que قل أعوذ برب الفلق لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. Dans une autre version, il lui a dit: tu n'iras pas plus méritant auprès de Dieu que surat قل أعوذ برب الفلق. Il y a aussi une autre version qui dit: tu ne liras pas plus méritoire auprès de Dieu que surat قل أعوذ برب الفلق et surat قل أعوذ برب الناس. Donc là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme titre de cette surah قل أعوذ برب الفلق, alors qu'il pouvait se contenter de dire que surat Al-Falaq. Et puisqu'il a dit قل أعوذ برب الفلق, donc ça a été considéré comme un titre officiellement donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'imam Al-Bukhari rahimahullah, dans son sahih, dans son authentique, lorsqu'il parle de cette surah, dans le titre, il a dit surat قل أعوذ برب الفلق. Donc le Bukhari a adopté ce titre-là en faisant référence à ce hadith que je viens de citer. Et ce hadith a été authentifié par l'Albani ainsi que par le Shu'aib l'Arnaout, qui est un grand savant aussi de hadith. Le troisième intitulé qui a été donné à cette sourate, mais cette fois-ci en association avec sourate Nas, autrement dit c'est un intitulé qui est donné aux deux sourates en même temps, c'est sourate Al-Mu'awwidhatayn. Et ça on l'a déjà dit, sourate Al-Mu'awwidhatayn. Al-Mu'awwidhatayn, ça veut dire les deux sourates protectrices, ou les deux sourates par lesquelles on demande la protection. Donc sourate Al-Mu'awwidhatayn, donc là aussi c'est un titre qui lui a été donné. Sauf que la majorité écrasante des savants n'ont pas donné le titre au singulier à Sourate Al-Falaq. À part un seul savant, à savoir Ibn Atiyah, l'Andalusi. Là, c'est une grande référence andalouse dans l'exégèse du Coran. Il est né en 481 de l'Hijr et mort en 541 de l'Hijr. Donc lui, il l'a appelé Al-Mu'awwidhatul Oula, la première Mu'awwidha. Et Sourate Nas, il l'a appelé Al-Mu'awwidhatut Thaniya, la deuxième Mu'awwidha. Mais la majorité écrasante des savants ne spécifie pas ce titre-là pour chacune des sourates. Ils les associent tous les deux et ils considèrent que toutes les deux sont Mu'awwidhatayn. Le quatrième titre qui lui a été donné, c'est le titre de, ainsi associé à Sourate Nas, pareil, associé à Sourate Nas. On les a appelés Al-Mushaqshiqatayn. Al-Mushaqshiqatayn. Et c'est un titre qui a été choisi par l'imam Sakhawi rahimahullah, qui est mort en l'an 643 de l'Hijr. Alors, Mushaqshiqatayn, pourquoi Mushaqshiqatayn? Chez les Arabes, on dit Chaque chaque al-ba'ir, c'est lorsque le chameau fait un bruit un peu bizarre. Je ne sais pas si j'avais déjà eu l'occasion de l'entendre. Il fait un bruit bizarre qui ressemble au gargarisme. Lorsque vous mettez de l'eau dans votre bouche et vous gargarisez l'eau. Donc c'est comme le gargarisme. Et il sort sa langue sur le côté, sur un des côtés, et il la gonfle. Donc il sort sa langue, il tire sa langue, il la sort sur le côté et il la gonfle. Il y a une grande pochette qui va se gonfler d'air. Et après, donc, il lance un bruit soutenu. Dans ce cas-là, on parle de shaqshaqatu al-ba'ir. Et le verbe, on dit shaqshaqa al-ba'ir. Et en français, on dit le chameau. Comment on dit au chameau? Le chameau blatter. Le chameau blatter. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Mettez le blatter du chameau et vous verrez ce son-là. Alors, c'est le mot-là, donc le titre-là, il vient de shaqshaqat al-ba'ir. Les Arabes aussi, ils disent shaqshaqa al-usfour. Shaqshaqa al-usfour, ça veut dire l'oiseau a chanté. Donc le son que va émettre l'oiseau est appelé aussi shaqshaqa. Et on parle aussi, lorsqu'on voit un prêcheur, un khatib, qui parle d'une manière continue, sans arrêt. C'est-à-dire lorsqu'il parle, il est éloquent, au point qu'il n'observe pas de temps d'arrêt dans les mots. Les mots se suivent et se succèdent l'un derrière l'autre d'une manière soutenue. On dit « هذا خطيبٌ مشقشق ». هذا خطيبٌ مشقشق. C'est un khatib مشقشق. Ça veut dire qu'il ressemble justement au chameau lorsqu'il fait ce bruit soutenu et répétitif qui ne s'arrête pas. C'est un bruit qui est continu. Donc on dit « خطيبٌ مشقشق ». Alors, certains savants comme Tahir ibn Ashur, rahimahullah, Hadar, c'est parmi les contemporains du XXe siècle qui n'est pas mort il y a longtemps, d'origine tunisienne. Lui, il dit, je n'ai pas trouvé d'explication pour le choix de ce titre-là. Pourquoi on a appelé Al-Mushaqshiqatayn? Pourquoi on a appelé ces deux sourates Al-Mushaqshiqatayn? Mais on peut penser que peut-être c'est parce que les versets sont petits et ils se répètent et ils sont de la même forme et de la même tonalité. Que ce soit pour sourate al-Falaq ou sourate al-Nas. قُلْ أَعْذَبَ رَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعْذَبَ رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Donc vous voyez que chaque verset se termine à peu près avec la même sonorité. Peut-être, Allah a'lam, que c'est pour cela que on les aurait appelés al-mushaqshiqatayn. Pour d'autres savants, en fait, le mushaqshiqatayn, ça veut dire celle qui protège de l'hypocrisie. Donc, nefaq, c'est l'explication qu'ils ont donnée, celle qui protège de l'hypocrisie. Et ceci se dit aussi de surat. Non, ça c'est l'autre nom que je vais donner tout de suite. Le cinquième intitulé, je m'excuse. Le cinquième intitulé donc qu'on a donné à cette surah, associé aussi à surat al-Nas, c'est al-muqashqishatayn. Alors, regarde, il y a une différence. Pour le premier, c'est al-mushaqshiqatayn. Le shin vient avant le qaf. Al-mushaqshiqatayn. Pour l'autre nom, le cinquième intitulé qu'on a donné, c'est al-muqashqishatayn. Le qaf précède le shin. Al-muqashqishatayn. Cet intitulé a été donné par l'imam al-Qurtubi ainsi que par l'imam al-Zamakhshari, rahimahumallah. Et al-Qurtubi dit qu'elle s'intitule ainsi parce qu'elle protège de l'hypocrisie. Parce que en arabe, on dit qashqasha al-marada, ça veut dire il a guéri. Ça veut dire qu'il a guéri de la maladie. Il a guéri de la maladie. Et le mot qashqishatayn, ça veut dire celle qui guérissent de la maladie de l'hypocrisie. C'est une forme métaphorique, bien entendu, comme si on considère l'hypocrisie comme une maladie. C'est une maladie, justement, du cœur. Donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs intitulés qui ont été donnés à cette sourate, Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbi al-Falaq, al-mu'awwidhatayn, al-mushaqshiqatayn, al-muqashqishatayn. 5 intitulés qui ont été donnés à cette sourate. Maintenant, pour les mérites de cette sourate, elle a énormément de mérite et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que les musulmans la lisent ainsi que surat al-Nas. Comme on l'a dit lorsqu'on a expliqué surat al-Nas, on a parlé des mérites de surat al-Nas, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on la lise comme ruqya, contre la maladie, donc pour guérir la maladie. On l'a fait aussi pour se protéger contre le mal, comme d'ailleurs on va l'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à ce qu'on la lise avant de dormir, à ce qu'on les lise toutes les deux avant de dormir, à ce qu'on les lise après les prières, après chaque prière, avec ayat al-Kursi et surat qul huwallahu ahad. Et on a vu aussi que même pour la prière de l'Witr, certains savants, comme les Malikites par exemple, voient que sur les derniers raka'a de al-Witr, on lit « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » ainsi que « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » et « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » alors que d'autres écoles considèrent qu'il suffit de lire « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » Donc tout ceci montre le mérite de cette surat. Et donc pour le connaître encore plus, il faut revenir à ce qu'on a dit sur surat An-Nas. Alors commençons maintenant par le premier verset. « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » Donc « قُلْ Allah عز وجل » comme on a dit, exactement comme surat An-Nas, il s'adresse au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et il lui montre ce qu'il faut dire, et par son biais, il explique aux musulmans aussi ce qu'il faut dire pour demander protection auprès de lui contre les mots que nous allons citer ou qui ont été cités dans cette sourate. Qul a'udhu, a'udhu, ça veut dire je demande refuge, je demande protection, je demande le voisinage auprès d'Allah Azza wa Jal contre un mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs al-mu'awidatayn. Maintenant, le terme al-falaq. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ et par lequel elle a été d'ailleurs intitulée. C'est un vocable qui est général, qui a un sens très général. Et après, selon les utilisations que lui donnaient les Arabes, il pouvait avoir un sens beaucoup plus particulier. Lorsqu'on dit « falaqa », le verbe « falaqa » signifie « fendre » et « fissurer » ou « ouvrir quelque chose ». Lorsque tu ouvres quelque chose, tu la fonds. Et tu la fissures, on dit falaqa. Lorsque tu dis par exemple falaqa ra'sahu, ça veut dire il a blessé sa tête, il a mis une fente, une blessure au niveau de sa tête. Falaqa ra'sahu. Donc là, c'est la signification du verbe. Donc falaq se dit de toute chose qui émerge, ou qui coule, ou qui sort à partir d'une matrice. Donc vous avez une matrice. Et cette matrice va s'ouvrir ou se fendre ou se fissurer, et d'elle va émerger une chose. Cette chose, cette dernière, on l'appelle al-falaq. On peut prendre énormément d'exemples. Par exemple, l'eau qui va sortir de la fissure d'un rocher, donc on l'appelle falaq parce que cette eau-là est sortie d'une matrice. Un enfant qui va naître de l'utérus d'une maman, donc la matrice c'est l'utérus, l'enfant on l'appelle falaq parce qu'il est sorti de la matrice. Un arbre qui va sortir de la terre, donc la terre va fissurer, va s'ouvrir, il va laisser pousser donc, l'arbre. Donc l'arbre est appelé le falaq dans ce cas-là. Lorsque l'arbre aussi fait sortir des bourgeons, le bourgeon s'appelle falaq parce qu'il sort de l'arbre. Lorsque la fleur sort du bourgeon, la fleur elle-même devient falaq parce qu'il est sorti du bourgeon. Lorsque le fruit sort de la fleur qui a été fécondée, donc le fruit aussi, il s'appelle al-falaq. Lorsque le noyau, on le fait sortir du fruit, le noyau lui-même, on l'appelle falaq. Donc vous voyez que toute chose quelque part peut être en même temps matrice et être falaq, considéré comme falaq. Matrice qui laisse sortir quelque chose et elle-même donc est considérée comme falaq. D'une manière générale aussi, on peut considérer que l'existence elle-même est un falaq. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti du néant. Il n'y avait que Dieu, et le néant avec. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à part Dieu. Et Allah Azza wa Jalla a fait sortir du néant, le falaq, ça veut dire toute l'existence. Donc l'existence toute entière peut être considérée comme le falaq. Donc là, c'est un sens général, et on peut le restreindre à un sens beaucoup plus particulier. Donc vous voyez que c'est un mot qui est bien polysémique. Les Arabes aussi considèrent que l'aube est un falaq. Pourquoi ? Parce que l'aube va sortir de la nuit. Et c'est pour cela d'ailleurs que les traductions, dans les traductions que vous allez trouver, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ dit « Je demande protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. » De l'aube naissante. C'est une des explications qu'on a données à Al-Falaq. Pourquoi ? Parce que les Arabes utilisaient énormément ce terme-là pour signifier l'aube. On dit « هَذَا الْأَمْرُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ كَوُضُوحِ الْفَلَقِ أَوْ وُضُوحِ الْفَارَقِ » الفَلَق ou الْفَارَق. Cette chose est très claire et aussi claire que la clarté de l'aube. Cette chose est aussi claire, aussi nette que la clarté de l'aube. Donc c'est pour cela que, comme on va voir, certains ont dit que le falak c'est fait référence à l'aube. Laissons et on verra pourquoi ils ont choisi ce terme-là. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de cette opération qui est celle de la sortie de l'aube, du jour, la sortie du jour, ou la disparition du jour, il utilise plusieurs métaphores dans le Coran. Parmi lesquels, Allah Azza wa Jalla, par exemple, en parlant du ciel, Allah Azza wa Jalla dit « A'antum ashaddu khalqan amissama » Êtes-vous plus fort dans votre création ou le ciel ?« Amissama banaha » Il a construit le ciel, « banaha » رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا Êtes-vous plus fort dans votre création que la création du ciel qu'il a construit et dont il a rendu l'épaisseur très large et il l'a bien établi, il l'a bien équilibré et ensuite il a assombri sa nuit, il a assombri la nuit du ciel et fait luire son jour, et fait luire son jour. Alors, luire, c'est la traduction que vous allez trouver dans les Corans, enfin traduits. Et luire se dit en français de tout ce qui fait réfléchir la lumière. On dit un crâne qui luit. C'est un crâne, la traduction c'est un crâne qui luit. Ou on se dit, ça se dit aussi du nez, un nez qui luit, ou des dents qui luisent. Ça veut dire qu'ils sont très brillants, qui réfléchissent de la lumière. Donc Allah Azza wa Jalla, en parlant de la sortie de l'aube, du jour, donc il utilise aussi ce terme, akhraja. Dans ce cas-là, il dit akhraja. En parlant de l'inverse, la disparition du jour et la sortie de la nuit, Allah Azza wa Jalla dit wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudhlimun. Et un signe ou bien une preuve pour eux, la nuit, nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Si on veut vraiment la traduction, naslakhu, salakha, ça veut dire dépecer. D'accord ? Lorsqu'on dépece un animal de sa peau, on dépece un animal, ça veut dire on lui enlève sa peau. Donc là, c'est comme si on enlève le jour, c'est comme si le jour est une peau et la nuit, c'est le corps, parce que c'est elle d'ailleurs qui est plus. C'est la base quelque part dans le cosmos, c'est la nuit qui est la base. La lumière n'est qu'une exception. Et si lorsqu'on a la lumière, c'est une exception. Vous quittez la planète Terre, vous montez dans le ciel, vous allez trouver que les ténèbres, que l'obscurité. D'accord ? Donc c'est elle la base. Et donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla l'habille avec le jour. Et ensuite, ce jour-là, qui est comme un habit, il l'enlève, il dépece la nuit. Et la nuit revient à ses ténèbres, à son obscurité. Donc vous voyez que ce sont différents types de métaphores qu'Allah Azza wa Jalla utilise lorsqu'il parle de l'opération d'apparition ou de disparition de la journée. Et donc c'est pour cette raison que plusieurs exégètes, la majorité des exégètes, disent que le falak dans ce verset, c'est l'aube naissant. C'est l'aube, c'est le jour naissant ou l'aube. En effet, pourquoi ils disent-ils ? On peut croire que c'est plutôt cela. C'est parce que c'est dans la nuit que la majorité des problèmes arrivent. Les grands maux arrivent pendant la nuit. C'est dans la nuit qu'il y a le vol, c'est dans la nuit qu'il y a les meurtres en général, c'est dans la nuit qu'on a peur de voyager ou de se déplacer. Personne n'ose se déplacer dans la nuit, donc maintenant on le fait avec les moyens artificiels, mais malgré cela, il y a toujours une peur et une crainte qui résident dans le cœur, même lorsque vous prenez votre voiture la nuit. Vous n'êtes pas aussi rassuré que lorsque vous la conduisez le jour. C'est dans la nuit qu'il y a ce qu'on met le plus, l'adultère. C'est dans la nuit que les pervers, ainsi de suite, sortent à l'extérieur pour faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est dans la nuit où on ne peut pas secourir les gens. Si vous avez des gens qui ont coulé dans la mer ou des gens qui ont été perdus dans les montagnes, dans la nuit, on arrête les opérations de secours. Donc, il y a beaucoup plus de difficultés à secourir les gens dans la nuit que dans le jour. Donc, c'est pour cela que la nuit a toujours eu dans l'esprit des êtres humains une connotation négative. C'est le côté sombre, c'est le côté où il n'y a pas de clarté, où on ne voit pas beaucoup. Donc, où les animaux féroces sortent, les animaux venimeux, les animaux vénéneux. Donc, c'est là où, justement, enfin, ça se dit des plantes vénéneuses. C'est là où, justement, qu'on a le plus de mal. Et donc, c'est lorsque le jour sort, lorsque le jour apparaît, c'est quelque part une sécurité qui revient aux êtres humains. Et là, vous le remarquez, vous êtes en voyage pendant la nuit, vous êtes dans la difficulté et tout. Dès que le soleil se lève, là, vous sentez, vous ressentez une certaine sécurité. C'est là où, par exemple, les opérations de sauvegarde commencent, c'est là où même les malades, c'est pendant la nuit qu'ils souffrent le plus, soit parce qu'ils ne trouvent pas le médecin, soit parce qu'ils ne peuvent pas bouger, soit parce qu'il y a trop de calme. Et dans ce cas, ils entendent beaucoup plus leur souffrance. Et le jour, donc, ils ont plus d'accès aux moyens médicamenteux, par exemple, pour alléger un petit peu leur souffrance. Donc, toujours, la sortie du jour a une connotation positive. C'est là où on va travailler, c'est là où on va gagner de l'argent, c'est là où... Donc, elle a toujours une connotation positive, et la nuit, elle a toujours une connotation négative. Au point que dans certains peuples qui étaient polythéistes, et ils considéraient la nuit comme le dieu du mal. Ils considéraient la nuit comme le dieu du mal. Et donc, c'est pour cela que ces savants-là, la majorité, disent que « قُلْ أَعَذْبَ رَبِّ الْفَلَقِ » Le falaq, c'est « as-subh ». C'est l'aube. Pourquoi ? Parce qu'on demande à Allah Azza wa Jal qui a facilité les moyens de faire sortir l'aube après la nuit, cette nuit qui est mauvaise. Il a fait sortir, il a eu les moyens de faire sortir l'aube de la nuit. Il a les mêmes moyens pour faire sortir les gens de tous les problèmes dans lesquels ils vivent et d'enlever et d'estomper tous les maux qui peuvent les toucher. Donc vous voyez la concordance entre pourquoi on s'adresse à celui, au Seigneur de l'Falaq. D'accord ? Pourquoi on s'adresse au Seigneur de l'Falaq ? Parce que autant par l'Falaq, il a fait revenir la sécurité, il a permis aux gens de se soigner, il a permis aux gens de retrouver la sécurité, autant il est capable d'enlever les maux à toute personne qui a été touchée et qui s'adresse à Allah Azza wa Jal afin de la protéger. Donc voilà la première explication de Al-Falaq, c'est l'aub. Deuxième explication qui a été donnée par certains exégètes, comme l'imam Dahak, lui aussi c'est une référence au niveau de l'exégèse du Coran. Donc lui, il dit Al-Falaq fait référence à toute l'existence, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas uniquement que l'aube, mais toute l'existence est considérée comme Al-Falaq parce qu'elle sort du néant. Et dans ce cas, ça concorde, puisqu'on s'adresse au Seigneur de Al-Falaq, ça veut dire au Seigneur de toute l'existence. C'est lui qui a créé toutes les créatures, aussi bien les bonnes que celles qui peuvent nuire, aussi bien qui peuvent nous faire du bien que celles qui peuvent nous faire du mal. Et donc, puisque c'est lui qui les a créées, donc il est plus à même de les contrôler, de contrôler ces créatures qui nous font du mal et de stopper leur mal pour qu'ils ne nous touchent pas. Donc là aussi, selon cette explication-là, ça concorde. Je m'adresse au Créateur de tous ceux qui nous entourent pour me protéger du mal de certaines de ces créatures qu'il a créées. Donc cette explication aussi se vaut par rapport à la première qui a été donnée par la majorité des savants. Il existe aussi une troisième explication qui a été donnée par quelques savants qui disent que le falaq fait référence uniquement aux graines et aux noyaux des fruits. Le noyau qu'on sort des graines des fruits. Aux graines et noyaux des fruits. Et eux, ils disent, c'est-à-dire la preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal fait référence à cela dans un verset, le verset 95 de Sourate Al-An'am. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allaha فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. Mais les autres répliquent, ceux qui disent non, c'est pas forcément le habbu al-nawa, c'est vrai qu'Allah y a fait référence, mais continuez la lecture du verset. Dans le verset, donc, il dit c'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau, du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah, comment donc vous laissez-vous détourner? Alors les autres, ils leur disent, mais continuez le verset, le deuxième verset qui vient après, le verset 96. Allah Azza wa Jal dit Faliqul isbah. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Donc là je le dis, fondeur de l'aube. Donc là aussi il fait référence à l'aube. فالق, donc falaq. فالق الإصباح, donc l'إصباح est un falaq. فالق الإصباح. Donc dans les deux versets, il a cité les graines et le noyau, et le verset d'après, il a cité le jour. Fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Donc ils leur disent, ben, si on continue le verset, on va trouver l'aube qui va être mentionnée. Et dans ce cas, c'est l'aube qui a plus de sens que, comme signification de l'falar, que la graine ou le noyau. Mais de toute manière, ce qu'on peut dire, c'est que ces trois explications, qu'on explique le falak par tout le cosmos, toute l'existence, qu'on explique le falak par l'aube, qu'on explique le falak par la graine ou le noyau, ce sont toujours des explications qui se basent sur la signification étymologique du terme al-falak. Donc elles se valent. Soit on va leur donner un sens plus général, donc c'est le cosmos, soit un sens plus restrictif, donc c'est al-nawa ou al-hab al-nawa ou bien l'aube naissant. Mais donc ça tourne toujours autour de la signification étymologique du terme al-falaq. Il y a, ceci dit, une quatrième explication qui a été donnée aussi par des exégètes, et c'est que le falaq serait une demeure, baytun, une demeure dans l'enfer, baytun fi an-nar, ou bien une prison dans l'enfer. Une demeure ou une prison, donc ça, de toute façon, une demeure peut être une prison. Une demeure ou une prison dans l'enfer, dans laquelle Allah Azza wa Jal met les pires des êtres humains, ceux qui méritent le plus de châtiment, ceux qui ont fait le plus de mal à l'humanité. Donc Allah Azza wa Jal les met dans cette demeure. Et ceci a été rapporté sur quelques savants, et ils disent que lorsque la porte de cette demeure s'ouvre, les habitants de l'enfer vont crier. Il crie tellement la chaleur qui sortira de cette demeure-là dépasse de loin la chaleur qu'ils sont en train de subir, le feu qu'ils sont en train déjà de subir dans l'enfer. Donc c'est un feu au-dessus de feu que vont subir les gens de l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et cette explication a été rapportée sur Abdullah ibn Abbas ainsi que sur Ubay ibn Ka'b radiallahu anhuma, mais les chaînes de transmission ne sont pas valides, ne sont pas authentiques, qui ont été rapportées, qui se réfèrent à ces deux compagnons. Il y a certains aussi qui ont dit que le falak, c'est un des noms de l'enfer. Un des noms de l'enfer. Qul a'udhu bi rabbil falak, c'est comme si on dit je demande protection auprès du Seigneur de l'enfer. Puisque c'est l'enfer qui, quelque part, qui est la référence de tout le mal qu'on peut imaginer. Donc ça aussi, c'est une explication qui a été donnée, mais rien ne le confirme d'une manière authentique. On a aussi rapporté sur Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, qui est un tabi'i, qu'il a dit que le falak, c'est un puits à l'intérieur de l'enfer. Donc ça va aussi dans le même sens que demeure, prison, un puits, joub. Donc c'est à peu près la même explication et c'est pour le même objectif. Ça veut dire châtier les pires des êtres humains. Le Kalbi, qui est aussi un exégète, a dit que le falak fait référence à un fleuve dans l'enfer. Donc tout cela, ce sont des explications qui ont été données à le falak, sauf que cette fois-ci, les dernières explications que j'ai données ne se basent pas sur le sens étymologique du terme al-falaq. Donc il dit c'est le nom d'une demeure, c'est le nom d'un fleuve, c'est le nom d'un puits, c'est le nom d'une prison dans l'enfer. Donc là il n'y a aucun lien avec la signification étymologique du terme. Alors maintenant passons قل أعوذ برب الفلق. Passons maintenant au deuxième verset. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Alors là, il faut faire très attention. Min sharri ma khalaq. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit min sharri alladhi khalaq. Il n'a pas dit je demande protection contre le mal que Dieu a créé. Il ne faut pas le comprendre, min sharri ma khalaq. C'est pas du mal qu'il a créé, non. Du mal des êtres qu'il a créé. Min sharri ma adma hadid. Al-waslada est une référence à ce que Dieu a créé. Et donc là, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'on n'attribue jamais le mal à Allah Azza wa Jal. On n'attribue jamais la création du mal ou l'instauration du mal à Allah Azza wa Jal. Donc c'est pas min sharri alladhi khalaq, non, min sharri ma khalaq, du mal des êtres qu'il a créés. Donc ma fait référence aux êtres qu'il a créés et non pas à ce que lui a créé directement. D'accord ? Il faut faire la nuance. En tant que musulmans, Al-Sunna al-Jama'a, nous croyons qu'il ne faut jamais attribuer le mal à Dieu. On ne lui attribue que le bien. Et regardez, lorsqu'Ibrahim, dans quelques exemples, lorsqu'Ibrahim alayhi salam parlait de Allah Azza wa Jalla, il a dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Celui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Et c'est lui qui me nourrit et m'abreuve. وَإِذَا مَارِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit lorsqu'il me rend malade, il me guérit. Donc on n'attribue jamais le mal à Dieu. Donc lorsqu'il dit, il a dit وَإِذَا مَارِضْتُ. Donc il a attribué la maladie à lui. C'est comme s'il est lui-même responsable de sa maladie. Et non pas Allah Azza wa Jalla. Donc on s'attribue toujours le mal. Mais on, ou bien à quelqu'un d'autre, mais pas à Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est comme ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut croire et c'est comme ça qu'il faut, lorsqu'on parle, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc on n'attribue pas le mal à Allah Azza wa Jal. C'est l'exemple des djinns dont Allah Azza wa Jal a parlé dans Surah Djinn qui ont entendu le Coran. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Allah Azza wa Jal nous a fait part de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Nous ne savons pas si une nuisance ou un mal évolue pour les habitants de la terre. Et là, le sujet, ils ne l'ont pas dit. Adam bin il-Majhoul. Le sujet, ils ne l'ont pas dit. Ou leur Seigneur leur veut une guidance. Nous ne savons pas si un mal a été voulu pour les habitants de la terre ou leur Seigneur leur veut une guidance. Il aurait pu dire, nous ne savons pas si Allah veut, c'est-à-dire veut du mal aux habitants de la terre ou du bien. Non, lorsqu'il s'agissait du mal, on a occulté le verbe, le sujet. On a cité que le verbe et le sujet, il est inconnu, comme Bni Limajhul. Mais lorsqu'il s'agissait du bien, on a cité le sujet qui est Allah Azza wa Jalla. C'est pareil lorsque le Khadr, alayhi salam, lorsqu'il était en compagnie de Moussa, alayhi salam, il a, comme vous le savez, il a ébréché le
bateau, il a tué l'enfant, il a redressé le mur. Et lorsqu'il voulait expliquer à Moussa alayhi salam ce qui est arrivé, il était précis dans ses paroles. Il a dit Amma safinatu, s'agissant du bateau, Amma safinatu, fakanat li masakina ya'maluna fil bahr. Il appartenait à des pauvres qui travaillaient dans la mer. Wa kana wara'ahum Malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Et il y avait derrière eux un roi qui confisquait tous les bateaux. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Fa'aratu an a'ibaha. Donc j'ai ma safinatu fa kanat masakin ya'maluna fil bahr kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. J'ai voulu les brécher Donc voilà pourquoi. C'est pour que le roi là ne confisque pas leur bateau. Donc là, lorsqu'il a dit ébrécher, il n'a pas dit Dieu a voulu les brécher. Il a dit j'ai voulu les brécher. Donc il a attribué le mal parce que ébrécher un bateau, c'est une opération de mal. Même si la conséquence est bien, malgré cela, il n'a pas voulu l'attribuer à Dieu. Bien que c'est Dieu qui lui a demandé de l'ébrécher. Et lorsqu'il a parlé du mur qu'il a redressé, là c'est un bon acte. Là il a dit « Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayni yatimayni fi al-madina wa kana tahtahu kanzun lahuma fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma » Donc quant au mur, il appartenait à deux orphelins qui habitaient dans la ville, et en dessous de lui il y avait un trésor. Et ton Seigneur a voulu qu'ils arrivent à maturité afin d'extraire leur trésor. Puisque là, dans cette opération-là, il n'y a aucun mal, il a attribué le bien à Allah Azzawajal. Arada Rabbuka, ton Seigneur a voulu qu'ils arrivent à maturité afin de sortir le trésor. Donc vous voyez, toujours le bien, on l'attribue à Dieu, mais dès qu'il s'agit d'un mal, on ne l'attribue pas à Allah Azzawajal. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal ne veut pas du mal des êtres humains. Il n'a pas créé les êtres humains pour leur faire du mal. Il a créé les êtres humains. Il leur a donné une certaine volonté limitée. Il a créé des animaux. Il leur a donné certains instincts qui peuvent les pousser à faire du mal. On va y venir. Il a permis l'existence de la maladie qui peut nuire à l'être humain. Mais Allah Azza wa Jal a mis des règles. Il a mis des règles qui, normalement, lorsqu'ils sont suivis, l'être humain ne peut être touché que par le bien, exclusivement que par le bien. Donc la base de l'existence, la base de la création, c'est le bien. Alors que le mal n'est qu'un artefact. Le mal n'est qu'un artefact. Retenez bien ça. La base de l'existence, la base de la création, c'est le bien. Alors que le mal n'est qu'un artefact. Ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas, non. Dieu a autorisé à ce que le mal existe. Mais jamais Allah Azza wa Jal n'instaure directement le mal. C'est toujours un intermédiaire qui va faire le mal. Et on attribue le mal, c'est-à-dire l'auteur du mal, c'est toujours une créature et non pas le créateur. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Allah Azza wa Jal a créé l'homme et il lui a donné la capacité de nuire à l'homme ou à la nature, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans l'environnement. Mais Allah Azza wa Jal, en même temps, a instauré des règles et des lois et des convenances, une législation religieuse qui a montré à cet être humain ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est licite et ce qui est illicite. Donc il lui dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que je t'interdis de faire, même si tu as la capacité de le faire, même si je t'ai donné la capacité de le faire, je t'ai interdit de le faire et je te punirai en conséquence si jamais tu le fais. Donc lorsque l'être humain fait un mal, c'est lui qui l'a fait, c'est pas Allah Azza wa Jal. On n'attribue pas le mal directement à Dieu, c'est l'être humain qui a fait le mal, c'est lui qui a tué, c'est lui qui a fait les guerres, c'est lui. Et c'est pour ça les gens qui disent si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres sur terre? Si Dieu existe, pourquoi il y a autant d'injustices sur terre? Non, c'est comme s'il laisse entendre que c'est Dieu qui a fait le mal et c'est Dieu qui a instauré directement l'injustice. Non, Allah Azza wa Jal a mis un dispositif. Dans ce dispositif-là, il a mis un cadre, des limites. Ces limites-là, il les a mis restreints pour certaines créatures, il les a mis larges pour d'autres créatures. Et après, il a mis des règles. Après, c'est ces créatures-là qui vont faire le mal ou ne pas le faire. S'agissant déjà de l'être humain, c'est lui qui va tuer, c'est lui qui va mentir, c'est lui qui va voler. S'il s'interdit de faire ce mal-là, le mal n'aura pas lieu. Et s'il le fait, de toute façon, Allah Azza wa Jal va punir. Et celui qui a été victime du mal de l'être humain, Allah Azza wa Jal va le lui récompenser. Il va lui récompenser le mal qu'il a subi. Autrement dit, ce mal-là, il va se faire rembourser dessus. Mais celui qui a fait le mal, il sera jugé en conséquence. S'agissant par exemple de la maladie, nous savons très bien aujourd'hui que la totalité, on va dire la majorité des maladies, sont causées par des éléments qui sont mis en place par l'être humain, ou par son environnement qu'il a changé, ou par la négligence de l'être humain. Parce que tu n'as pas une certaine hygiène de vie, au niveau de tes habillements, au niveau de là où tu habites, tu peux être touché par une maladie. Parce que tu n'as pas un équilibre alimentaire, tu peux être touché par la maladie. Et la majorité des maladies actuelles, les plus répandues et qui assassinent et qui tuent l'être humain, sont à cause du déséquilibre alimentaire ou à cause du déséquilibre que l'être humain a causé dans l'environnement, lequel environnement va réagir négativement par rapport à l'être humain. Donc, tout ce qui est nucléaire, et ainsi de suite, la couche d'ozone qui a été percée, et ainsi de suite, ça, ce sont les conséquences des êtres humains. Donc, les maladies qui vont toucher l'être humain, c'est à cause de ce qu'il a fait lui-même, du déséquilibre qu'il a produit dans l'équilibre qu'Allah Azza wa Jal a créé. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a certaines maladies qu'on n'a pas choisies par nous-mêmes, qui peuvent tomber comme ça. Ça peut tomber par la négligence d'autrui, mais ça peut venir comme ça. Alors, supposons qu'il y a une maladie qui va tomber comme ça. Allah Azza wa Jal, la maladie est utilisée de différentes manières. Il peut l'utiliser comme punition pour l'être humain. Tu as fait un mal, tu as été désobéissant, tu as commis un péché, Dieu te punit déjà ici-bas, il te punit ici-bas avec cette maladie. Donc la maladie ici, c'est un mal, c'est une punition d'un mal que tu as commis. Donc le responsable du mal, c'est toi. C'est le mal que tu as fait qui t'a fait mériter la maladie. Voilà. Donc ce mal-là est une conséquence d'un mal qui vient de toi. Donc le responsable direct de ta maladie, c'est toi. Allah Azza wa Jal peut te toucher par une maladie dont tu n'as pas été l'auteur ou l'initiateur, parce que Allah Azza wa Jal veut élever ton degré. C'est que, d'abord, il veut t'éprouver. Alors, tu prétends que tu es croyant, Allah Azza wa Jal te dit, ben voilà, je vais tester ta foi. Est-ce que tu vas manifester de la patience devant une maladie par laquelle je te touche? Donc là, c'est un test de la force de ta foi. Ce n'est pas un mal en lui-même. Ce n'est qu'une épreuve pour démontrer le bien fondé de ta foi ou la fragilité de ta foi. Si tu patientes, bien entendu, Allah Azza wa Jal te récompense. Et donc ce mal, ce qui était mal dans son apparence, cette maladie qui était considérée comme un mal dans son apparence, est in fine un bien pour toi, puisque tu vas récupérer des bénéfices dessus, dans l'ici-bas, ici-bas et dans l'au-delà. Troisième manière, c'est que Allah Azza wa Jal peut te toucher par une maladie pour faire émerger de toi et faire manifester de toi le comportement et la vertu de la patience et de l'endurance. Et nous savons que ces deux vertus-là sont excellentes, c'est parmi les meilleures vertus. Et qui parle d'endurance et de patience parle d'épreuve. On ne peut pas patienter si on n'est pas devant l'épreuve. Il y a la patience devant, parce que tout est preuve. L'épreuve donc implique patience, théoriquement, si on est bon. Donc dans ce cas-là, c'est pour émerger un bien en toi. Donc la maladie n'est pas un mal lui-même, parce qu'il a fait émerger de toi un bien sur lequel de toute manière tu vas être récompensé. Et après tout, la souffrance, dit la maladie, quoi qu'elle soit longue, et là c'est de la philosophie, mais c'est la réalité en fait, elle reste éphémère par rapport à la longue vie de l'être humain. On se rappelle de quelqu'un qui était notre proche par exemple, qui avait une grande maladie, une maladie grave, il souffrait. On souffre avec lui lorsqu'on le voit souffrir, on souffre. Et tu dis, ça a duré longtemps, 1 an, 2 ans qu'il souffre, 3 ans qu'il souffre. Mais dès qu'il meurt, qu'est-ce que tu dis? Tu es apaisé et tu oublies cette souffrance. Toi, tu l'oublies parce que tu n'y penses plus. Tu dis, alhamdoulilah, il est mort, il s'est reposé. Il est mort. Après, il s'est reposé du mal d'ici-bas. Alors, on ne sait pas après ce qui va lui arriver. Mais déjà, toi-même, tu oublies tout. Ça veut dire que même la souffrance qui t'accompagnait pendant l'accompagnement de sa souffrance a disparu. Et sa souffrance aussi, elle a disparu. Lorsque tu compares cette souffrance au niveau temporel par rapport au temps, à l'échelle temps que Allah Azza wa Jalla a accordé à cet être humain, tu vois que c'est rien. Ça tombe vers zéro par rapport à l'infini. C'est zéro par rapport à l'infini. Pour ceux qui ont l'habitude de faire l'équation limite, la fonction limite de fx lorsque x tombe vers l'infini, donc est égal à zéro. Epsilon, donc est égal à zéro. Donc ça aussi, il faut le voir d'une manière un peu philosophique. Mais en tout état de cause, il y a toujours une sagesse derrière l'instauration d'un mal qui passe par un intermédiaire. Mais jamais on attribue le mal à Allah Azza wa Jal d'une manière directe. Donc là, c'est par rapport aux maladies. S'agissant par exemple du mal que peut provoquer un animal féroce, un animal venimeux, Allah Azza wa Jal, chaque animal qu'il a créé, il l'a créé pour une mission bien donnée. C'est pour maintenir l'équilibre de la vie. Chaque animal a un rôle. Le sanglier, il a un rôle. Le serpent, ils ont un rôle. Là, c'est pas pour rien que Allah les a créés. Et il a créé en eux cette capacité de nuisance parce que cette nuisance, elle est positive. Elle sert à quelque chose. Le caractère venimeux, dit le serpent, il lui est nécessaire pour maintenir l'équilibre. C'est comme ça qu'il va attraper certains rats, certains animaux qui peuvent être nuisibles pour l'être humain ou lorsqu'ils se multiplient pour l'équilibre de la nature d'une manière générale. Donc ce mal-là, on le voit en tant que mal lorsqu'il nous touche, mais lorsqu'il ne nous touche pas, c'est un bien pour l'équilibre. Après, lorsque toi, tu es franchi la frontière entre toi et l'animal et tu rentres dans son territoire et là, il te nuit, là, c'est toi la cause du mal. C'est pas Dieu. Parce que c'est toi qui es venu dans son territoire. Je vais chez le lion, je vais chez un tel, je vais chez un tel, c'est toi qui l'as cherché. En revanche, lorsque c'est l'animal qui franchit la frontière qu'il a entre lui et toi et il vient vers toi, là déjà, Allah Azza wa Jal nous autorise en tant que musulmans de tuer cet animal. Regardez l'exemple des serpents, l'exemple des scorpions et l'exemple des rats. Ce que le professeur Asma appelle le fouaïsiqat, les petites perverses, les animaux les petits pervers, les animaux pervers. L'islam nous autorise à les tuer lorsqu'ils rentrent dans notre territoire. Tu es chez toi, tu trouves un serpent, tu es à la mosquée, tu trouves un serpent, tu as le droit d'aller le tuer. Il en est même pendant la prière, de rompre ta prière, d'aller le tuer. La même chose pour le scorpion, la même chose pour le rat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont franchi leur territoire, donc tu peux le tuer. Si jamais tu ne le tues pas et qu'il te nuit, dans ce cas, ça reste un artefact. Mais ce n'est pas la base. Ce mal-là est un artefact. Ce n'est pas la base de l'existence. Voilà pourquoi la phrase que je dis tout à l'heure, la base de l'existence, c'est le bien. Et le mal n'est qu'un artefact. D'accord ? Il n'y a qu'un artefact. Et jamais on l'attribue à Allah Azza wa Jal. Regardez donc Allah Azza wa Jal ce qu'il dit. ما أصابك من حسنة فمن الله. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. ما أصابك من حسنة فمن الله. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Tout mal qui te touche, ça vient de toi. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا. Nous t'avons envoyé comme messager aux gens. وكفى بالله شهيدا. Et Allah suffit comme témoin. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Donc il pardonne beaucoup, ça veut dire qu'il pardonne beaucoup, mais parfois lorsqu'il ne pardonne pas, il te touche par le mal à cause du mal que toi tu as fait. À cause du mal que toi tu as fait. At-Tirmidhi rapporte que Abu Bakr radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, mourni bi shay'in aquluhu idha asbahtu ou amsayt. Cher prophète, ordonne-moi, c'est pas conseille-moi. Regardez Abu Bakr, ordonne-moi, je suis prêt à obéir. Ordonne-moi quelques paroles que je dois dire le matin, alors je me réveille, et le soir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris cette formule. Il lui a dit Allahumma alim al-ghaybi wa shahada. Au Seigneur, connaisseur de l'invisible et du visible. Fatir as-samawati wal ard. Toi qui as créé les cieux et la terre du néant. Fatir, c'est celui qui crée du néant. Khaliq, c'est peut se dire de celui qui crée d'une chose. Mais le Fatir, c'est celui qui crée du néant, à partir de rien. Fatir as-samawati wal ard. Rabba kulli shay'in wa malika. Le Seigneur de toutes choses est son souverain. Rabba kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih. Je te demande protection contre mon propre mal. A'udhu bika min sharri nafsi. Je te demande protection contre mon propre mal et contre le mal de Satan et son associationnisme, wa shirki. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Qulhu idha asbahta wa idha amsayta wa idha akhadta madja'ak. Dis cette formule à chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que le soir rentre et à chaque fois que tu vas au lit. Donc répète ce dua. Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir al-samawati wal-ard, rabba kulli shay'in wa malika, la ilaha illa anta, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dua qu'il a appris à Abu Bakr, il a commencé de lui demander, de demander protection auprès de Dieu contre son propre mal, avant de demander la protection contre le mal de Shaitan. Parce qu'il y a beaucoup de maux qui ne touchent à cause de nous-mêmes et non pas à cause de quelqu'un d'extérieur. Beaucoup. Et il y a une partie, bien entendu, qui va venir par les autres. Donc lorsque je dis « A'udhu bi Rabbi al-Falaq min sharri ma khalaq »« Min sharri ma khalaq » ça englobe tout, y compris mon propre mal. Y compris mon propre mal. Il fait partie « min sharri ma khalaq » de tous les maux qui existent. Ou là, du mal des êtres qu'il a créés, du mal de tous les êtres qu'il a créés, y compris moi-même en tant qu'être humain. Alors, deux explications ont été données à ce deuxième verset, min sharri ma khalaq. Certains exégètes comme Al-Hassan al-Basri, ou là, certains savants comme Al-Hassan al-Basri et Thabit al-Bunani, rahimahullah. Thabit al-Bunani, c'est un successeur qui est mort en l'an 120 et quelques. Et c'était un ascète et c'était une référence au niveau de l'ilm hadith. Donc, ces deux-là, ils disent, le deuxième verset, « Misharri Makhalak », il fait référence au mal de Iblis et de sa descendance. Et de l'enfer, certains disent l'enfer. Donc, ça fait référence au mal de Iblis et de sa descendance. Donc, si c'est le cas, si on comprend de cette manière-là, « Misharri Makhalak », ça veut dire du mal de Iblis et de sa descendance. Ça veut dire que dans cette sourate, on demande protection auprès de Dieu contre quatre maux. Le mal de Iblis et de ses descendants, c'est le deuxième verset. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, le mal de l'obscurité. Wa min sharri nafathat, le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad, et le mal de l'envieux. Donc, on demande quatre protections. On demande une protection auprès de Dieu contre quatre maux. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que non, ce verset-là, min sharri ma khalaq, englobe tous les maux. Englobe tous les maux. Et les maux qui vont être cités après, ce sont les détails, quelques spécificités de ces maux-là. Ça veut dire, je te demande protection contre tous les maux, parmi lesquels je vais citer trois. Donc le deuxième verset fait référence à tous les mots, et parmi lesquels je vais citer trois. Lesquels? Min sharri ghasiqin idha waqab, la nuit, lorsque avec son obscurité, celle qui souffle, on expliquera, celle qui souffle dans les nœuds, et l'envieux lorsqu'il envie. Donc dans ce cas, la protection, il est contre trois spécifiques et un général. Alors où est, dans ce cas, donc ceux qui ont choisi cet avis-là, où est Iblis dans la sourate? Ils disent non. Iblis, parce que son mal est énorme et parce que son mal a un impact très négatif, Allah Azza wa Jal a voulu réserver une sourate pour nous enseigner comment demander protection contre lui. C'est sourate An-Nas. Donc, c'est comme si les deux sourates sont liées. Sourate Al-Falaq et An-Nas. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, mais de tous les maux, du mal de tous les êtres qu'il a créés. Et après, il a commencé à détailler. C'est qui ces êtres-là? Donc, il a cité trois dans Sourate Al-Falaq. On arrête là. Mais puisque Shaitan a beaucoup d'influence négative, donc là, il a réservé une sourate complète. Et dans cette sourate-là, parce que le mal de Shaitan est fort, on sollicite Allah Azza wa Jal par trois dimensions. La seigneurie, Rabb al-Nas, la souveraineté, Malik al-Nas, la divinité Ilahi al-Nas. Alors que dans Sourate al-Falaq, on ne le sollicite pas que par la seigneurie. Rabb al-Falaq. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Que par la seigneurie. Dans Sourate al-Nas, on le sollicite par trois. La seigneurie, la souveraineté et la divinité. Pourquoi? Parce que les trois mots qui vont être cités dans Sourate Al-Falaq n'arrivent pas, n'égalent pas le mal de Shaitan, de l'ouswas. L'ouswas de Shaitan, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'ouswas, comme on l'a dit la dernière fois. Donc voilà pourquoi ces deux sourates sont liées. Les deux sourates-là, elles sont vraiment imbriquées l'une à l'autre et se complètent en fait. D'accord? Il a cité trois exemples, qui, voilà, et des mots, et ensuite le grand mal de Shaitan, il l'a terminé avec, parce que c'est avec ce mal-là qu'il a commencé le Coran, lorsqu'il nous a cité dans Sourate Al-Baqarah, tout au début de Sourate Al-Baqarah, l'histoire de Iblis avec Adam alayhi salam et comment il a sorti Adam du paradis. Donc il a laissé terminer tout le Coran avec ce Iblis-là et lui a réservé une sourate à part. Donc vous voyez qu'il y a une certaine harmonie, une certaine logique dans le suivi de ces sourates-là et dans même la manière de demander la protection. Ici c'est seulement Rabb al-Falaq, alors que dans Sourate An-Nas, on le sollicite par Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas. Donc on s'arrête à ce niveau-là, Inch'Allah, pour aujourd'hui et on continuera le reste, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.